Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Réfléchissons. Si chaque personne qui naît dans le monde est complètement souillée par le péché en vertu d'une décision immuable de l'Éternel qui l'a ainsi prédestinée, pourquoi dès lors l'Évangile doit-il être prêché et comment cet Évangile pourrait-il être la puissance de Dieu pour son salut? Or, comme nous l'avons déjà dit, l'homme a été créé libre, doté d'un cœur et d'une intelligence qui lui permettent de croire ou de ne pas croire à l'Évangile de Jésus. À celui qui choisit de croire et d'obéir à cet Évangile, le salut est offert, et cela en vertu de la parole de Dieu même, disant « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Par contre, celui qui choisit de ne pas croire, et par conséquent de ne pas obéir à l'Évangile, sera perdu. Car Christ dit en effet, celui qui ne croira pas sera condamné. Ce véritable choix d'une destinée que Dieu offre à tout être humain fait l'objet d'un avertissement solennel lancé par l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La théorie de la corruption naturelle de l'être humain représente une véritable réfutation de la vérité selon laquelle l'Évangile de Christ purifie l'âme par le moyen de l'obéissance à la volonté de Dieu. La Bible dit en effet que l'apôtre Pierre s'adresse à ses frères chrétiens en ces termes « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par la bouche des païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » En 1 Pierre, 1, 22, l'apôtre parle encore de la purification de l'âme par l'obéissance à la vérité. Nous sommes donc loin de l'idée d'une souillure innée qui persisterait malgré tout à l'état endémique durant la vie entière de chaque individu. Cette théorie, avancée par plusieurs groupements religieux, veut en effet que la corruption propre à l'homme demeure en ceux qui sont dégénérés. Or, nous venons de voir qu'il n'en est rien. Cela nous amène à poser une nouvelle question. Si la théorie de l'hérédité spirituelle était vraie, un petit enfant ne pourrait-il hériter du cœur purifié de ses parents chrétiens? Ne semble-t-il pas logique de penser que, puisque le bébé hérite soi-disant de la nature corrompue des méchants, le processus soit réversible et qu'il joue également dans le cadre d'enfants de chrétiens? Mais ce serait là aussi aller bien au-delà de ce qu'enseigne la Bible, car les deux théories relèvent tant l'une que l'autre du domaine de l'imagination et sont, par conséquent, également fausses. On n'hérite ni d'un état de péché, ni d'un état de justice. Aucun être humain n'est chargé des péchés d'autrui. Il ne porte que ses propres fautes. Au premier siècle, l'apôtre Pierre ordonna « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Il s'agissait des péchés qu'avaient commis personnellement ses interlocuteurs, et non ceux d'Adam ou encore de leurs parents. Le jour du jugement, chacun en particulier sera jugé d'après ses propres œuvres, et non selon les fautes commises par Adam et Ève. Chacun de nous rendra compte à Dieu par lui-même, assure l'Épître aux Romains. Et Paul dit encore aux Corinthiens, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ces déclarations ne se prêtent à aucune interprétation contradictoire, et il est impossible à tout être épris de vérité de mal les comprendre. Au jour du jugement, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même du bien ou du mal qu'il aura fait. Ceux qui prétendent que les enfants naissent pécheurs, souillés d'office, devraient lire très attentivement Jacques, chapitre 4, verset 17, où il est dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Le petit enfant, peut-il faire le bien? Par ailleurs, qui oserait aller jusqu'à affirmer qu'un nouveau-né est un pécheur parce qu'il ne fait pas ce qu'il sait qui est bon? Non. Il est impossible qu'un bébé soit pécheur, et cela pour la bonne raison qu'il est incapable de faire soit le bien, soit le mal. D'ailleurs, l'apôtre Paul, au cours d'une argumentation à propos de la la souveraineté de la dispensation des grâces divines sur toutes les créatures, touche en plein le problème qui nous occupe. Car il dit, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni le bien ni le mal. Il apparaît donc clairement à tout esprit ouvert que jamais Jésus n'a conçu l'idée qu'un enfant puisse naître entaché d'un ou plusieurs péchés quelconques. C'est au contraire lui qui a comparé la condition spirituelle de ceux qui entrent dans le royaume de Dieu à la pureté originelle des petits-enfants. Il dit en effet, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » On voit également très mal. Si les bébés naissent pécheurs, pourquoi Paul les donne lui aussi pour exemple dans sa première épître aux Corinthiens ? Mes frères, dit-il, il ne faut pas que vous en restiez à un niveau enfantin sur le plan des facultés intellectuelles, du jugement et du raisonnement. Lorsqu'il s'agit de pratiquer le mal, oui, continuez tranquillement à rester des petits-enfants. Jacques, quant à lui, nous donne la véritable origine du péché et par la même nous aide à mieux comprendre la totale innocence des nouveau-nés. Il dit en effet dans son épître que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Qui pourrait envisager la possibilité pour un petit enfant d'être amorcé par sa propre convoitise pour ensuite en arriver à consommer le péché? Non. Les bébés ne peuvent pas être tentés et ne peuvent même pas concevoir la notion du péché. La théorie de l'entière corruption héréditaire de l'homme est également la négation du fait que le péché est véritablement le résultat d'une tentation à laquelle seuls les adultes peuvent succomber. Dans l'Épître aux Romains, Paul donne ce qui pourrait constituer une des définitions profondes du péché lorsqu'il dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Une vérité absolument primordiale se dégage donc de tout ce que nous venons de voir. Et ce dernier passage biblique le confirme encore. C'est que le péché est en réalité l'éclatement, la concrétisation des pensées de l'être humain. Par là, il faut entendre qu'il s'agit de l'issue d'un processus dont l'origine se situe à l'échelle purement intellectuelle et spirituelle. On n'hérite pas d'un péché, on le commet parce qu'on succombe à la tentation de violer une certaine partie de la volonté de Dieu. Dès lors, on peut dire qu'il représente un résultat obtenu personnellement et non une chose que l'on reçoit d'office d'autrui sans l'avoir jamais au moins conçu dans son esprit. Si le péché était héréditaire, il ne serait alors plus du tout l'aboutissement d'une pensée, c'est-à-dire un dénouement obtenu ou acquis personnellement. Le péché d'Adam et Ève ne serait plus dès lors qu'une faute héritée de Dieu lui-même. Par contre, si les résultats obtenus par la pensée des parents sont transmis d'une manière héréditaire aux enfants, ceux-ci deviennent totalement irresponsables. De plus, les parents sont alors pleinement comptables des péchés de leurs enfants. Et finalement, en remontant la filière, Dieu seul serait responsable de tout le mal, de toutes les iniquités qui se commettent à chaque instant sur notre globe. On pourrait même dire qu'en poursuivant cet étrange raisonnement, il serait logique et évident d'aller jusqu'à dire que le péché lui-même n'existe absolument pas. L'apôtre Paul écrit à Timothée que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Si l'homme naît déjà totalement souillé par le péché, comment arriverait-il à pouvoir avancer toujours plus dans le mal? Et comment pourrait-il se laisser encore séduire par de fausses doctrines et devenir un imposteur? Jésus dit un jour à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si, comme certains veulent le prétendre, l'homme naît pécheur dans le monde, est-il également une créature totalement corrompue par le péché lorsqu'il est à nouveau dans le royaume de Dieu? D'après cette fameuse doctrine, la nouvelle naissance ferait doublement de lui un enfant du diable plutôt qu'un enfant de Dieu. Le prophète Ézéchiel déclare que le péché n'est pas héréditaire, mais que l'homme est pleinement responsable de ses propres péchés. L'âme qui pêche, dit-il, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le prophète nous montre ici une fois de plus que premièrement, le salut d'un être ne dépend pas de ce que ses parents ont décidé pour lui lorsqu'il était encore bébé ou petit enfant. Et deuxièmement, que son salut n'est pas accordé par un baptême auquel il n'a pu participer car il ne pouvait ni croire ni se repentir comme l'exige Dieu, puisqu'il était encore absolument pur. Ce passage de la Bible met également en évidence le fait qu'il appartient à chacun de choisir sa propre destinée et que c'est le péché que l'homme commet qui le perd et non celui dont il aurait soi-disant hérité de ses pères. Il y a déjà bien longtemps, Josué déclarait aux enfants d'Israël « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » La situation n'a en fait pas changé du tout. Qui désirez-vous servir? Un dieu de tradition, de doctrines humaines, à qui on a fait perdre toute consistance et toute valeur spirituelle, ou le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des vrais chrétiens.
Alléluia, 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 alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre, et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cedex. Et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cedex, France. Au revoir, à la semaine prochaine, même heure, et que le Seigneur vous garde.
Alléluia.